le monde cherche sa pépite sur le marché crypto, mais est-ce qu'elle ne serait pas d'ores et déjà là devant nos yeux? Élément de réponse dans cette émission du lundi 6 avril 2026. Tout a commencé ces derniers temps avec pas mal de discorde du côté des réseaux sociaux. La vague décentralisée qui s'est accrochée telle une moule à son rocher à l'éthos de ce qui avait été proposé à l'origine d'un point de vue de la finance décentralisée, des réseaux décentralisés, puisque la blockchain reste à ce jour un des réseaux qui a permis notamment au travers de Bitcoin de prouver cette fonctionnalité et que ça pouvait justement perdurer au travers du temps et plaire à un bon nombre d'utilisateurs. Et aujourd'hui, ETH Lind, premier du nom, puisque si vous étiez déjà là autour de 2019, vous avez très certainement connu AAV sous son ancien petit nom, passe à la V4, donc accélère après une V3 qui était amplement réussie. Alors vous avez directement sur le site de AAV, je précise au cas où ça ne soit pas très clair pour tout le monde, ça n'est pas sponsorisé, je n'ai pas quasiment de AAV aujourd'hui en portefeuille de mon côté, puisque j'attends de voir justement un petit peu ce que fait le token, mais c'est vrai que quand on regarde dans l'ensemble, eh bien, il y a quand même des choses très positives qui sont en train de se passer. Donc, est-ce que ça sera salué plus tard d'un point de vue spéculatif? En tout cas, d'un point de vue du produit, ça avance. Alors, bien entendu, tout n'est pas parfait puisque, comme on le disait à l'instant, il y a cette vision originelle de la DeFi qui a pris beaucoup de plomb dans l'aile, pour ainsi dire, et c'est la version un peu plus centralisée, slash entreprise qui, aujourd'hui, mène la voix et mène le lead autour de AAV et prochainement ils vont proposer au travers de l'AV app directement sur votre téléphone sur iOS 6,5%, c'est jusqu'à 6,5% sur les stablecoins avec une assurance de balance à 1 million de dollars par utilisateur. Donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle quand ça a été annoncé ces derniers temps et désormais on a l'AV4 qui se nomme AAV Pro, vous avez directement l'interface ici. Alors là pareil, il y a des personnes qui disent que l'interface est plus épurée, qu'on s'y retrouve un petit peu mieux. Personnellement, je trouve ça quand même assez sombre d'un point de vue comme ça, complètement dark et une interface peut-être un peu austère. D'un autre côté, la V3 était plus colorée, on avait quelque chose d'un peu plus friendly, mais aujourd'hui, les utilisateurs, est-ce que fondamentalement, notamment les utilisateurs institutionnels de la DeFi, ils veulent quelque chose qui fonctionne plutôt que quelque chose qui est joli? Voilà, c'est plus côté d'une approche, on va dire, exclusivement retail, donc les particuliers, qui peut-être s'y retrouver un tout petit peu mieux sur l'ancienne version. Comme d'habitude, vous pouvez connecter tous vos wallets, etc. Et ensuite, vous avez tous les taux d'emprunt et de dépôt que vous pourrez percevoir. À noter également que depuis l'arrivée de cette version Pro, en fonction de ce que vous déposez en collatéral, vous aurez des avantages. Donc, vous aurez des taux qui seront un petit peu meilleurs si vous avez des actifs qui sont considérés comme plus résilients ou robustes en fonction ben là aussi d'une liste qui a été prédéterminée de façon peut-être un peu plus centralisée directement par AAV. Vous avez également pour comprendre un petit peu plus loin comment fonctionne la liquidité désormais sur ce AAV V4/Pro, l'article de 0x Colton donc qui nous parlait des pôles de liquidité, les pools en anglais, les piscines si on traduit ça au littéral, avec désormais une liquidité qui est réunifiée par rapport à la V3 précédemment. Donc là aussi, de très belles choses pour l'utilisateur final. Vous n'aurez plus de problématiques et potentiellement, pour tout ce qui est également les événements de liquidation, ça peut permettre d'être un petit peu plus ajusté et d'avoir moins de liquidation. Vous avez également ce qu'ils appellent le SPOC contrat, donc les utilisateurs qui interagissent avec pour tout ce qui est collatéral, borrow, le supply, liquidité, wallet. Enfin, on a quelque chose qui, désormais, d'un point de vue, on va dire purement technique et d'un point de vue purement de l'application et de ce qu'elle permet de faire à l'utilisateur final, est quand même très positif sur cette V4. Alors, ils ont déployé ça petit à petit. Il y a pas mal de FUD aussi du fait qu'ils ont mis un énorme goulot d'étranglement à l'entrée, ce qui fait qu'il y a peu d'argent, il y a quelques millions qui ont été déposés sur la V4 et beaucoup de réfractaires qui disent un peu pour défendre aussi la vision originelle quelque part, coûte que coûte, on restera sur la V3. Donc c'est un peu papy et de la résistance. Mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe directement sur la V4, on a quand même quelque chose qui est extrêmement clean. Donc pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin sur la partie purement technique des échanges, des prêts, des collatéraux, justement, comme je vous disais, avec des collatéraux qui peuvent être considérés comme un petit peu meilleurs que d'autres et sur lesquels vous aurez des taux qui seront des taux ajustables finalement. Là aussi, on parle encore aujourd'hui de taux ajustables, mais j'ai vu passer, bien que à ce jour ça ne soit pas encore totalement mis en place du côté de AAV, la possibilité plus tard d'avoir un taux fixe. Et ça, je peux vous garantir que ça sera assez extraordinaire puisque ça permettrait au marché là aussi de totalement être sur une ligne flat, notamment pour ceux qui ont peur de se faire liquider, et de savoir avec précision, une précision mathématique et horlogère, combien va nous coûter tout simplement à l'année le prêt et d'avoir le collatéral associé pour ne jamais être liquidé. Donc ça serait une avancée de plus. Également, vous avez certainement dû le voir passer, c'était milieu fin de semaine dernière, on a la Banque du Canada qui a mené une très longue étude. Vous avez le fichier qui est disponible très certainement sur X ou en ligne. J'ai pas à vous le donner là aujourd'hui, mais dans tous les cas, faites attention à ce sur quoi vous cliquez. Ne téléchargez pas des PDF, ne lancez pas des grands fichiers si vous ne savez pas ce sur quoi vous cliquez. On doit pouvoir retrouver ce rapport en lien cliquable directement, mais pas de téléchargement. Et je vous invite très largement aujourd'hui à utiliser des outils au niveau de votre navigation qui feront en sorte que vous ne cliquiez pas justement sur des liens vérolés. Toujours est-il, pour en revenir à nos moutons, la Banque du Canada qui publie un long pavlar du côté de AAV pour tout simplement dire que c'est très positif ce qu'ils ont réussi à mettre en place, et notamment depuis la V3 avec une étude qui avait été menée courant 2024 et où ils disaient que aucun prêt non performant n'avait été émis, et ce qui fait que ça se comporte voire même mieux qu'une banque traditionnelle puisqu'on n'a pas de réserve fractionnaire, on a un surdimensionnement, c'est leur terme, des liquidations automatisées qui aident à éviter les pertes des prêteurs sur le marché directement primaire de Ethereum, donc blockchain layer 1, puisque par la suite on a eu énormément d'autres blockchains qui sont venus se greffer autour de AAV. Et donc au travers de ce rapport, sur lequel ils se sont appuyés sur une durée qui va quand même du 27 janvier 2023 au 6 mai 2025, l'étude qui révèle que les positions étaient menées de façon exactement telle que ce qu'elles étaient prévues au niveau du smart contract. Les liquidations fonctionnent, les emprunts, les dépôts, il n'y a jamais eu de hack, on touche du bois bien entendu. J'espère que ce n'est pas avec cette V4 que les choses se mettront à déraper. Toujours est-il, je suppose que quand même ils ont continué de le faire auditer par les meilleurs des meilleurs et que ça continuera, que ça perdurera en ce sens. Donc quand on met tout ça mis bout à bout, quand même on a un mood qui est vachement positif du côté de AAV et un prix qui peut-être aujourd'hui au niveau de son token, on verra ça dans un instant au niveau de l'analyse technique, est quand même relativement bas au vu des bonnes nouvelles. Ce qui veut aussi dire peut-être que le marché pour l'instant n'y croit pas et punit quelque part cette version V4 Pro centralisée que finalement les utilisateurs eux-mêmes portaient à l'époque à bout de bras au niveau de cette vision ethos décentralisée de la V3. Et aujourd'hui on a quand même pas mal de profils importants de AAV ou prestataires de AAV qui ont quitté le navire, donc l'avenir pourrait s'écrire de façon radieuse si eh bien toutes les étoiles viennent à s'aligner une fois de plus pour ce projet. Mais en tout cas aujourd'hui voilà, je tenais à faire le point complet sur ce qui se passe en bonne et due forme autour de AAV et en espérant que la finance décentralisée continue de porter haut en couleur les possibilités qu'offre la blockchain. Et on passe un petit peu du coq à l'âne, bien qu'on soit toujours dans le même sujet autour de Ethereum pour la deuxième info du jour. Il y a proche de 3 millions d'Ether qui attendent 50 jours pour être stakés sur le contrat principal de la blockchain directement Ethereum. En gros, aujourd'hui, si vous avez de l'Ether, si vous en avez 32, vous pouvez avoir votre propre nœud. Ça représente déjà une somme qui est conséquente puisqu'on a un Ether qui s'échange aujourd'hui autour de 2130$. Mais pour ceux qui n'ont pas tout ça, eh bien, vous avez la possibilité également d'aller sur Lido ou bon nombre d'autres protocoles et de faire du liquid staking, c'est-à-dire on va vous donner un token en collatéral de ce que vous déposez à la hauteur de ce que vous déposez. Et j'ai plus le chiffre en tête, c'est peut-être 0,1 Ether ou voilà, quelque chose dans ces eaux-là pour commencer à participer au réseau, et vous recevez entre 2 et 3% à l'année, toujours en fonction du nombre d'Ether qui sont disposés en staking, puisque au plus il y en a, au plus la récompense générale du réseau s'abaisse. Et la bonne nouvelle pour ceux qui se disent, bon ok, il y en a 3 millions d'Ether en entrée 50 jours pour pouvoir staker, eh bien, ceux qui cherchent à sortir sont de l'ordre de zéro. Alors, ça ne veut pas pour ainsi dire qu'il y en a littéralement zéro. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de file d'attente. Donc, quand vous voulez sortir, vous pouvez sortir de suite. Attention, si un jour, il y a quelque chose qui se passe du côté de la blockchain Ethereum et que ça ne se passe pas bien, bien entendu, tout ceci se renversera. Donc, il vous faudra, à ce moment précis, à contrario, 50, 100 jours ou je ne sais combien pour totalement sortir du staking. Mais aujourd'hui, on a une confiance qui est matérialisée au travers de ça. On peut l'observer d'un point de vue on-chain. Et surtout, ça laisse rêveur quant aux institutions qui, par la suite, petit à petit, sont en train, tour à tour, d'ouvrir des ETF stakés qui vont proposer ce type de produit à leurs clients. Et c'est quelque chose dont on avait discuté il y a des années déjà avec des intervenants tels que Bitcoin, et où on disait que finalement, à partir du moment où les institutionnels vont pouvoir pitcher à leur fonds la possibilité d'avoir un rendement comme si c'était quelque part un petit peu un dividende, en gros, vous détenez vos 10, 20, 100, 100 000 Ethers pour les fonds et vous avez de 2,5 à 3% par an, vous vous doutez bien que eux, ça va les intéresser beaucoup plus que quelque part, entre grands guillemets, bien entendu, un Bitcoin qui est un actif improductif et qui ne génère pas de rendement. Alors, je mets des énormes guillemets, bien entendu, puisque à ce jour, l'histoire nous l'a prouvé, Bitcoin a été le grand choisi pour le moment des institutionnels, mais c'est juste pour vous donner un petit peu de substance à la réflexion qu'il peut y avoir derrière. En effet, entre un actif qui peut être dividend-like comme Ethereum et un actif comme Bitcoin qui aujourd'hui ne produit pas de rendement, c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question. On part là aussi sans transition, j'essaie de ne pas faire trop long sur ce jour de lundi de Pâques avec le crypto total 2350 milliards. On a peut-être un double creux qui est en train de se matérialiser ici au niveau du crypto total, tandis que les oscillateurs ont fini de purger. Est-ce que la touchette ici unique du 2 février 2026 à 2000 milliards de capitalisation autour de 60 et quelques mille du côté de Bitcoin, on était à 59 880, a été le bottom de ce cycle? Ça serait complètement fou pour le coup. Ça voudrait dire que les institutionnels ont payé la moyenne mobile 200 semaines, tel que là aussi on le pensait, puisque on est purement sur un cycle d'institution désormais, et vous le voyez du côté des actions américaines, la plupart du temps, dès qu'on s'approche des moyennes mobiles à 200 semaines, le marché paye un petit peu à l'aveugle, puisqu'ils savent qu'on est revenu un petit peu en mode gravité à une norme de marché. C'est quelque chose un petit peu implicite, mais c'est une acceptation générale de se dire « Ok, quand on revient... » Quand on a des actifs qui sont en bull run, comme les 7 magnifiques, etc., la tech, l'IA, au long terme, qu'on perd 50-70% sur les dossiers les plus capitalisés au monde, bien entendu que c'est quelque chose qu'ils regardent. Donc aujourd'hui, si je peux vous donner un petit peu d'opium en ce début de mois d'avril, si Bitcoin est considéré désormais comme un actif, bien qu'il soit quelque part plutôt une commodité, mais bon bref, on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, par les institutionnels à l'égal d'une action, quelque part, pour vraiment voilà, faire du très simplifié, eh bien, en effet, les 2000 milliards, 60 000 dollars sur Bitcoin pourraient être le point bas et on aurait d'ici l'été, automne, quelque chose de beaucoup plus positif. Je reste toujours très dubitatif sur ce scénario-là, qui est un scénario très médian mais très soft en termes de bear market. Je vous invite bien entendu à toujours considérer le fait qu'on puisse aller travailler dans cette box entre 1500 milliards et les 2000 qu'on a déjà travaillé, ce qui correspondrait du côté de Bitcoin à quelque part entre 50 et 60 000 si ça se passe bien et entre 40 et 60 000 si ça venait à se gâter. Pour moi, voilà, on est toujours dans une configuration où mine de rien, si on étudie purement et simplement la théorie de dos, on est en train de faire des points bas systématiquement qui sont plus bas que les précédents. Donc c'est le moment ou jamais, aux abords de ce mois d'avril, juste avant l'été, ça paraît quand même très aventureux de mettre vraiment le rebond tel qu'on l'espère depuis pas mal de temps et de franchir cette zone des 76 000. On a 78 400 la moyenne mobile 20 et rallié autour de 80 85 000. Le cours et le marché paraît un petit peu fragile pour arriver à cet état de fait, et d'autant plus que tous les jours, voilà, on a Dodo qui dit qu'il va oblitérer l'Iran, etc. Donc on ne sait pas du tout sur quel pied danser pour l'instant d'un point de vue économique. Et ne vous y trompez pas, le jour très certainement où le détroit d'Ormuz sera totalement libéré, c'est à ce moment précis que les marchés risquent de prendre un petit peu peur et de se dire bon, bah, finalement, on a tanké tout ce temps quand il ne se passait rien, mais on compte un petit peu les cadavres finalement de ce que ça va coûter réellement à l'économie. Donc faites gaffe à ça. On a une configuration technique qui nous dit que oui, le bottom aurait pu être fait sur cette bougie de début février sous les 60 000 $, 2000 milliards de capitalisation pour le crypto total, mais ça paraît un petit peu trop simple. Et là aussi, c'est l'expérience de 7-8 années sur ce marché, j'allais dire de con, mais c'est un petit peu ça des fois, qui parle et qui nous tient sur cette réserve. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas y être exposé, bien entendu, mais faites attention au cours de cette année 2026, qui sera pas très facile à naviguer, vu comment ça part. Ether, bien entendu, qui pareil, fait à peu près le même move que Bitcoin, sauf que, eh bien, il est juste sous son pas de tir des 2150. La dernière fois, ça n'est pas passé. On veut break d'un seul coup la zone des 2004 à 2005 avec la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 20. On rallierait autour de 2008. On a la 50 et la 100 qui sont à 2009, 3080. Et ensuite, on a une autre zone de pivot autour de 3400. La suivante à 4000, 4100. Et ensuite, l'extrême qui nous permettra plus tard de nous libérer, on l'espère, de cet immense triangle rectangle ascendant qui se trouve autour de 4 900 à 5 000 $ pour Ethereum, la seconde crypto-monnaie du marché qui, comme on vient de le voir, malgré tout, offre à l'année un résultat qui, petit à petit, vous permet d'avoir toujours un petit peu plus d'Ethereum. Et c'est le point faible que viseront quelque part les Bitcoin maximalistes, de dire qu'aujourd'hui, on n'a pas un pool de Ethereum qui est totalement fini. C'est pas inscrit dans sa blockchain, qui en aura que 21 millions, il est vrai. Et on clôturera donc avec AAV, comme on en a pas mal discuté sur ce format qui est un petit peu un format spécial crypto aujourd'hui, puisqu'on va pas parler des marchés traditionnels. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra mercredi. Toujours est-il pour AAV, autour de 90-91 $ qu'il a touché hier. On est de retour à 95. Est-ce qu'on va réussir à renverser cet énorme canal parallèle descendant qui est dans lequel il est quand même depuis août 2025? Donc ça fera dans quelques mois un an que AAV petit à petit est baissier. Comme je vous disais la dernière fois, la problématique à laquelle on est confronté en tant qu'investisseur intelligent et avisé, quand bien même on aime ce projet depuis le début sur la chaîne, on ne le reniera pas, eh bien c'est que on a AAV BTC qui lui-même est extrêmement baissier. Donc dans ces phases baissières de bear market, on va préférer attendre soit vraiment des supports extrêmes long terme tels qu'il l'avait touché ici en avril 2024, notamment pour AAV, ou bien d'avoir des trains qui se renversent complètement, mais ça prendra énormément de temps. C'est un petit peu un pari sur l'avenir, c'est un pari sur le fait que le token de AAV aura toujours une valeur quelconque face à un univers de la DeFi qui est en train de perdre un petit peu décentralisé dans finances décentralisées. Donc c'est un risque quand même qui est très important, mais on a un produit derrière, un projet qui est quand même assez extraordinaire. Donc, comme d'habitude, comment jauger du curseur sur ça plutôt que d'aller sur du Tao BitTensor dont tout le monde parle et qui a quand même une courbe qui est vachement plus sexy, ou sur du hype dont tout le monde encore aujourd'hui parle sur les réseaux sociaux et qui, pareil, très certainement, dès lors qu'il y aura des capitaux sur le marché crypto, repartira comme une balle. D'un point de vue risque-récompense aujourd'hui, bien entendu, tout ce qui se passera quelque part entre 50 et les 90 $ actuels pour AAV peuvent être intéressants, on va dire, d'un point de vue purement technique spéculatif, et ça n'est toujours pas un conseil en investissement. D'un point de vue investisseur avisé et intelligent, est-ce que quand on regarde AAV BTC, il vaut mieux pas juste détenir du BTC? Voilà, la question se pose, et en tout cas, je pense que les graphiques à aujourd'hui, pour l'instant, répondent qu'en l'état, il vaudrait mieux juste détenir du Bitcoin, mais malheureusement, ça vaut pour 99% des altcoins. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent lundi de Pâques. On se retrouve d'ici mercredi pour la review un peu plus générale. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que c'est très important quand même qu'on puisse échanger d'un point de vue communautaire, si vous croyez toujours en AAV, si vous pensez que la version V4 Pro centralisée va mener à sa perte ou à mal quelque part finalement le projet de AAV, ou si vous pensez que de toute façon c'était le passage obligé après la prise en main finalement de l'institutionnalisation du domaine de la blockchain, etc. avec quelque part Bitcoin qui continuera d'être la version pure et dure décentralisée, bien que là aussi d'un point de vue purement philosophique ça puisse pas mal se discuter aujourd'hui, notamment pour la partie on va dire des ETF qui est en train petit à petit de faire l'aspirateur à Bitcoin. Et d'un autre côté, eh bien, on a des projets comme Ethereum, comme Avalanche, comme Tao BitTensor, NIR, Ondo pour tout ce qui est RWA, AAV pour la DeFi. Est-ce que tout ça va pouvoir subsister au long terme? Est-ce que tout ça va pouvoir exister, générer du revenu? Voilà, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui et c'est la question à laquelle vous devez systématiquement répondre avant d'investir dans quoi que ce soit sur le marché crypto. Sinon, si vous n'arrivez pas à y répondre de manière claire, limpide et des convictions qui sont totalement alignées dans votre tête, eh bien c'est que soit vous n'avez pas compris le marché crypto, soit vous n'avez rien à y faire, soit si vous voulez vous y exposer sans totalement le comprendre, ça passera par deux lignes qui en permanence seront ajustés en fonction des phases de marché, Bitcoin et un petit peu de stablecoin qui représentent les euros, les dollars que vous avez sur votre compte aujourd'hui et qui sont du cash qui vous permettent de déployer en bonne et due forme quand il y a des phases précises justement de marché. Très bonne journée et à mercredi. Ciao, ciao.